Explorateurs aux frontières de l'humanité. Émission conçue et animée par Michel Bernard. Chacun peut être à sa manière un explorateur aux frontières de l'humanité. Pour cela, il n'y a pas de diplôme ou de statut particulier. Les voies de l'exploration sont très variées. Art, dont la poésie, monde, humanité, nature, technique, voire nourriture. Explorer implique courage, ténacité, audace, curiosité et aussi quête de connaissances. Explorer, c'est aussi s'aventurer dans l'inconnu, aux frontières du connu, voire parfois revisiter le connu. Explorer, c'est aussi produire, conforter l'humanité dans et pour l'humanité. Pour cette première émission, nous recevons Françoise Limignana. Elle vient de publier son premier roman, Jusqu'à devenir, aux éditions Le Bateau Ivre à Toulon. Dans ce roman, 11 personnages prennent la parole, mais bien au-delà de ce roman, c'est le parcours de Françoise qui nous a conduit à l'inviter. Née à Bayonne, cette femme de 52 ans, deux enfants, a été médecin puis comédienne, auteur-compositeur, interprète et à nouveau médecin. Un parcours qui allie une double profession, la médecine et les arts. Un parcours qui, je pense, nous rappelle la beauté des parcours métissés et peut-être l'ardente obligation de ces parcours de plus en plus. Un parcours singulier et un thème délicat, les fins de vie. Entre le souffle qui surgit et le souffle qui s'en va, la vie. Pour chacun, inévitablement, la fin de vie. Pour certains, de façon douloureuse et tragique. Mais que cela ? Françoise, encore une fois, après avoir été médecin généraliste, puis artiste, disons une intermittente du spectacle, travaille à et avec ses fins de vie, une frontière de l'humanité, une zone sensible en humanité, qui pose plein de questions. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Alors, j'ai envie de vous demander d'abord, mais d'où venez-vous ? Quel est votre parcours de vie pour en arriver là ?
Alors, c'est un parcours qui a commencé par une vocation précoce, je dirais, puisque dès 4-5 ans, dès mon plus jeune âge, j'affirmais avec beaucoup de volonté, je veux être médecin. D'où ça peut provenir Je cherche encore la réponse, je dirais, mais il est sûr que j'ai grandi dans un environnement issu d'une famille de bâtisseurs, puisque beaucoup de personnes de ma famille donc travaillaient dans ce milieu-là, architectes, ingénieurs en béton armé. Mon grand-père avait donc une entreprise de bâtiment. J'ai beaucoup entendu parler de béton armé, de construction de maisons, et je crois que la matière vivante était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Pourquoi par esprit de contrariété, je ne sais pas. J'ai fait des études de médecine. J'ai entamé des études de médecine avec beaucoup de conviction, avec envie de découvrir le corps humain et de m'intéresser à l'autre, surtout. C'était quelque chose d'important pour moi dans ma construction. Les études de médecine ont été une étape de ma vie passionnante. Ce sont des études où on apprend beaucoup de choses, bien sûr sur le corps humain. Mais par contre, il est sûr que l'approche de la mort, puisqu'on va en parler pas mal au cours de cette émission, est quelque chose qui est très très peu abordé. Il n'y a aucun enseignement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un enseignement sur la mort à proprement parler ? C'est peut-être pas effectivement envisageable. Mais même les cours de psycho que j'ai pu avoir n'abordaient jamais cette thématique. J'ai découvert la première confrontation, c'était lors du premier stage hospitalier que j'ai fait dans un service de pédiatrie cancérologie. Le deuxième jour donc de ce stage, j'ai vu donc un enfant de 4 ans mourir d'une leucémie, quasiment sous mes yeux, avec des parents effondrés. Bon, j'ai été extrêmement démunie. Et puis la mort, oui, on l'aborde lors des études de médecine pour apprendre à rédiger un certificat de décès, parce que c'était quelque chose, c'est un document officiel qu'on est amené à rédiger. Donc j'ai été appelée un jour lors d'un stage aussi à rédiger ce certificat de décès, donc première confrontation avec un corps mort au petit matin dans une chambre, une personne âgée dans un hospice. Et puis, troisième expérience, lors d'un remplacement en médecine générale, appel des pompiers, 2h du matin, pour un jeune de 17 ans qui s'est suicidé. Voilà, donc tout ça est resté quand même ancré dans mon esprit. J'ai fini mes études de médecine avec l'idée de faire de la médecine générale parce que, pour moi, la dimension du domicile était très importante. C'est vraiment là où on rencontre l'autre, dans son habitus, où l'on connaît son entourage et où on voit évoluer et vivre la personne. Voilà, donc j'ai ensuite été installée donc, en tant que médecin généraliste libéral à Montpellier. Et j'ai découvert l'intensité de la relation donc soignant, soignée, et puis être dans la mission de guérir, puisque les études de médecine, je reviens là-dessus, c'est on apprend à guérir, on n'apprend pas à mourir. Est-ce qu'on peut apprendre à mourir? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas encore, mais par contre, on peut être là soignant, on peut être là à l'écoute, on peut être là pour accompagner. Donc, cet parcours donc, de médecin généraliste libéral m'a permis de constituer, comme l'on dit, ma clientèle. C'est quoi une clientèle? C'est un mot qui fait peur, mais pour moi, ça a été une grande famille. J'ai constitué une grande famille avec des patients avec qui j'avais beaucoup de liens, des liens très très proches. Et j'ai véritablement appris la médecine auprès de cette grande famille. Une expérience humaine très riche. Très profonde. Voilà, j'ai abordé pendant cette période bien les soins palliatifs, je dirais la mort, comment accompagner. À cette époque-là, les soins palliatifs n'étaient pas très très organisés. J'ai pu assister à leur naissance puisque là, on était en pleine période d'épidémie donc du sida qui démarrait. C'est d'ailleurs là que les soins palliatifs sont apparus en France, parce que il fallait, dans l'urgence, s'occuper de tous ces jeunes gens, parce que c'était beaucoup de jeunes gens qui mouraient non accompagnés, dans des conditions qui étaient absolument inacceptables. Je reviendrai un petit peu là-dessus par la suite. Donc j'ai exercé avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction pendant 10 ans, comme médecin généraliste libéral, un petit épuisement, voilà, un petit épuisement parce qu'un gros investissement dans cette profession a fait que j'ai eu envie de mettre un petit peu entre parenthèses ma profession. Et je, étant donné que je me suis rapidement ennuyée, je suis revenue à une activité que j'avais déjà développée pendant cette activité de médecin généraliste, où j'écrivais, puisque j'écrivais entre certaines consultations, quand je vivais des situations un petit peu difficiles, j'écrivais sur des petits bouts de papier que j'avais accumulés au fond du tiroir de mon bureau. Et quand j'ai déménagé mon cabinet, j'avais récupéré un petit peu tous ces petits bouts de papier, donc j'ai eu du temps. Et je les ai ressortis avec beaucoup d'émotion, je les ai mis bout à bout. C'est devenu des petits bouts de texte, des chansons, des récits. J'avais du temps de libre, je me suis remise à faire de la musique puisque j'avais fait le conservatoire de piano et j'avais abandonné, hein, du fait des études, abandonné bon, la pratique, je jouais un petit peu de piano, mais là j'ai eu du temps pour me remettre à faire de la musique, à mettre ces textes en musique et j'ai découvert un instrument de musique, ça a été une révélation, je me suis acheté un accordéon. C'est un instrument que j'ai découvert parce qu'on le porte sur son corps et que c'est un instrument qui, à l'image du souffle de la vie jusqu'à la mort, on peut porter sur soi ce souffle et faire de la musique grâce à ce souffle. De là est parti un début d'activité artistique porté par mon entourage, puisque j'ai beaucoup d'amis qui sont artistes. Et depuis mon adolescence, je m'intéresse beaucoup à tout, à l'art en général, je dirais, mais au spectacle vivant en particulier. Donc au théâtre, à la danse, au cirque, ce sont des choses qui vibrent en moi. Ce qui m'a donné l'idée, eh bien, de commencer à écrire un premier spectacle. Et surtout à créer un personnage pour porter ces spectacles. Donc Céleste, personnage fantaisiste dramatique, est née m'a permis donc de faire vivre 4 spectacles successifs de théâtre musical sur des thématiques différentes qui évidemment me tenaient à cœur. Donc il y a eu un premier spectacle qui a été créé qui s'appelait « Petits airs soufflés », évidemment évocateur toujours de ce souffle de la vie à la mort. Donc avec pas mal de textes qui ont été repris de mon activité de médecin et donc accompagnés à l'accordéon. Dans un deuxième temps, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle Au café des hommes, sur la thématique du féminin, masculin, de la féminité, de la masculinité, de toutes les difficultés que l'on vit hein, actuellement, être homme, être femme. Un troisième spectacle est né sur le thème de l'amitié. Un quatrième spectacle, le festin de Céleste sur les plaisirs gustatifs. Et comment éprouver du plaisir avec toutes les nourritures célestes hein, aussi. Et je suis partie sur un cinquième projet d'écriture sur la vieillesse, un thème que j'avais en tête depuis un petit moment. Ce qui m'a amenée à rencontrer des personnes âgées dans une maison de retraite et qui m'a fait entrevoir le fait que quelque chose me manquait quelque part et que le soin me manquait, que la médecine me manquait. D'où revirement de situation, j'ai décidé, bon j'ai quand même réfléchi, de revenir à la médecine. Voilà, c'était quelque chose qui s'est imposé à moi. Et j'ai refait des remplacements de médecin généraliste. Et j'ai pris la décision de revenir à cette idée qui était chez moi très forte, de m'occuper de la mort. Enfin, m'occuper de la mort, c'est-à-dire d'aborder la médecine de façon différente, plus selon un mode curatif, mais selon un mode palliatif. C'est une démarche intellectuelle. Abandonner l'idée en tant que soignant de ne plus guérir, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et j'ai fait donc une formation universitaire pendant 2 ans, un DU de soins palliatifs, à l'issue de laquelle j'ai rédigé un mémoire sur la thématique de l'écriture. Et je reviens donc forcément à cette passion de l'écriture, où le thème était la prise en considération des états d'âme des malades en fin de vie sur le fil d'une écriture éclairante. Voilà ce qui m'a amené, après avoir donc rédigé ce mémoire, à écrire donc mon premier livre, Jusqu'à devenir, qui est un roman en fait qui relie 11 personnages. Dans leur fin de vie. 11 personnages qui sont bien vivants et qui sont des personnages fictionnels, puisque j'ai choisi d'écrire selon un mode fictionnel. J'aurais pu faire le choix d'une écriture factuelle, mais pour moi, c'était compliqué. L'idée de ne... Je ne voulais pas trahir donc, les paroles des personnes que j'avais pu accompagner. Et puis la fiction permet beaucoup plus de créativité à mon sens, beaucoup plus d'ouverture. Paul Ricoeur d'ailleurs le dit très très bien, l'écriture factuelle permet d'expliquer, l'écriture fictionnelle permet de comprendre. Voilà. D'où est né ce premier roman, Jusqu'à devenir. Jusqu'à devenir, c'est une phrase qui est reprise hein, régulièrement dans le roman, Jusqu'à devenir, un petit point noir dans le ciel, ce qui laisse supposer une liberté après la mort. Voilà.
C'est bien, en vous écoutant, on sent fortement qu'entre la médecine et les arts, il n'y a pas seulement un va-et-vient qui se construit dans votre parcours, il y a une alliance de la médecine et des arts dont la finalité pourrait être, il me semble, prendre soin de l'autre pour mieux prendre soin de soi. Est-ce cela ?
Oui, tout à fait, oui, bien sûr. En même temps, il faut pas perdre de vue que les soignants, pour soigner, il faut se soigner soi-même. Je crois que mon parcours le démontre quelque part et il faut se nourrir régulièrement de tout ce qui se passe autour de soi, être ouvert sur le monde et sur les arts. J'insiste fortement là-dessus. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser au corps. Si on veut faire de la médecine, si on veut faire de la médecine humaine, je m'explique, c'est-à-dire que les artistes, les sculpteurs s'intéressent au corps, les danseurs écrivent avec leur corps, les musiciens écrivent avec leurs oreilles, tout ça font qu'ils ont une représentation du corps, on ne peut pas rester insensible à ça. Et prendre en charge, c'est ce qu'on fait en tant que médecin, on soigne le corps. Si on n'est pas ouvert sur les arts, je crois que c'est... on perd le sens de ce que peut être le corps, on perd le sens de la vie, tout simplement.
Conception de la médecine qui n'est pas si fréquente que cela.
Oui, mais moi je reviendrai à une chose, c'est que la médecine fut un art, pendant un temps. Je crois qu'elle a besoin de retrouver de l'humanité. Ça paraît étonnant hein, de tenir ce genre de propos. Je pense que les médecins étaient formés auparavant en s'intéressant beaucoup aux sciences humaines. On a délaissé les sciences humaines en se disant bah, c'est futile, les matières scientifiques sont primordiales, c'est ça qui fera un bon médecin. Je crois qu'on se trompe. Je crois qu'on se trompe et la meilleure expérience que l'on peut, enfin, ce qu'on peut constater, c'est que je crois qu'on commence à devenir soignant, médecin, que ce soit infirmier, médecin, aide-soignant, personne qui fait de l'entretien dans une clinique ou un établissement, un hôpital. L'étape principale, c'est l'entrée dans la chambre d'un malade. C'est là où on entre dans son espace intime. Et ça, il faut absolument apprendre. Il faut être dans un savoir-être qu'il faut acquérir. C'est un parcours. Je pense que s'intéresser aux arts et aux sciences humaines permet d'arriver à cela. Voilà.
Alors, on voit que votre cinquième scénario porte sur la vieillesse. Mmh. Et que ce travail sur ce scénario de la vieillesse vous conduit finalement à la fin de vie. Alors cette fin de vie qui est l'espace que vous êtes en train d'explorer, qui est aux frontières de l'humanité, qui est quand même un champ sur lequel on sait peu de choses et où parfois il y a encore les peurs, comme au Moyen-Âge. Parlez-nous simplement de cette fin de vie telle que vous la voyez, telle que vous la vivez, telle que vous la concevez.
Alors je reprendrai juste une chose, on associe souvent vieillesse et fin de vie. Malheureusement, on a des fins de vie très précoces, hein, puisqu'il y a des enfants, des bébés qui meurent. Donc je crois qu'elle se situe à tous les âges, la fin de vie.
Vous avez tout à fait raison de rappeler cela. La fin de vie se situe à tous les âges. Autrement dit, vous avez fait un saut. En travaillant sur la vieillesse, vous allez voir comment ils ont leur fin de vie et vous découvrez et vivez que les fins de vie sont à tout âge.
Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est assez agaçant d'entendre les politiques parler actuellement, parce qu'on en parle beaucoup hein, de la fin de vie en ce moment. C'est un thème de société qui revient et dont il va falloir parler, je pense, de façon beaucoup plus profonde. Les politiques disent souvent, alors associent vieillesse, dépendance, fin de vie. C'est pas ça du tout. C'est, voilà, la fin de vie se situe effectivement
à un moment donné.
Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a aussi des gens qui décident de finir de vivre hein, parce que socialement, eh ben, ils sont morts socialement. Ils ne consomment plus, ou ils ne sont plus en état de consommer, ou n'ont plus les moyens de consommer. Là, on est dans une société de consommation qui, malheureusement, nous fait perdre de vue qu'effectivement, la fin de vie, c'est quelque chose de... C'est un moment qui est très simple dans une vie, finalement, mais on s'y prépare très très peu. Alors c'est quand même peut-être ambitieux et puis un petit peu utopique de dire qu'il faut avoir un projet de fin de vie. Mais je crois qu'effectivement, on n'y pense pas, sauf confronté parce que devant une réalité, parce qu'on perd quelque chose, on perd un proche brutalement, ou bien parce qu'on est confronté à une maladie grave. Ce qui fait qu'effectivement, ben, à ce moment-là, ça revient forcément à l'esprit. Voilà.
Alors expliquez-nous, aidez-nous à découvrir ces fins de vie, et à travers ces fins de vie, la fin de vie.
Comment peut-on définir une fin de vie, la fin de vie d'une personne? D'abord, il faut savoir si cette fin de vie a été annoncée, si elle est ressentie par la personne, si cette fin de vie a été imposée. De toute façon, en général, bon, ça correspond vraiment à l'entrée dans une tragédie. C'est une tragédie finale. Où la personne doit rejoindre une inconnue qui est la mort. Parce que la mort reste inconnue pour tout le monde, bien sûr. Et la personne est amenée à vivre sa propre mort. Devant cette éventualité, ce que l'on constate souvent, c'est que l'acceptation, la résignation, c'est très compliqué. Accepter de se délabrer physiquement, accepter de perdre ses capacités intellectuelles, accepter de ne plus avoir d'avenir, d'interrompre des projets que l'on a en cours, accepter de surmonter son angoisse, l'idée de souffrir, accepter de se résigner à faire ses adieux, à quitter ses proches. Je citerai à nouveau Paul Ricoeur, comme vous le comprendrez, c'est un auteur qui pour moi est... Je me référence beaucoup à lui. Il parle d'une entrée dans la nuit de l'identité, jusqu'à perdre cette identité. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est important d'y penser. Penser à sa mort, c'est aussi continuer à vivre en se disant qu'on peut justement mener à bout ses projets, continuer à vivre en se disant qu'effectivement, à un moment donné, ben, ça va s'arrêter. Voilà. On a peu cette culture en France, hein. Je crois que c'est quelque chose qui est un petit peu oublié. On en parle beaucoup sur les sujets sociétaux de comment régler la fin de vie. Le débat sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur l'acharnement thérapeutique, ça tourne beaucoup autour de ça. Finalement, ce sont des moyens techniques, je dirais. Mais sur le fond, en fait, et comment arriver... à gérer, si on peut gérer sa fin de vie, c'est quand même autre chose. Je reviens sur l'état qu'on peut avoir quand cette fin de vie s'approche. On a souvent des phases de colère, c'est difficile d'accepter. Ce temps qui reste à vivre, avec ces états d'âme qui se bousculent, ça peut être très très violent, ça peut être... je reviens à cette tragédie, c'est un temps, une temporalité particulière. J'aimerais vous faire entendre une chanson interprétée par Serge Reggiani, Le temps qui reste.
Écoutons cette chanson.
Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures? Combien? Quand j'y pense, mon cœur bat si fort. Mon pays, c'est la vie. Combien de temps encore? Combien? J'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler. Et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini. Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, aimer. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je ne sais plus où je suis né, ni quand. Je sais qu'il n'y a pas longtemps que mon pays, c'est la vie. Je sais aussi que mon père disait, le temps c'est comme ton pain, garde-en pour demain. J'ai encore du pain, encore du temps, mais combien? Je veux jouer encore, je veux rire de montagnes de rire, je veux pleurer de torrents de larmes. Je veux boire du bateau entier de vin de Bordeaux et d'Italie. Et danser, griller, voler, nager dans tous les océans. J'ai pas fini. Je veux chanter. Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix. Je l'aime tant le temps qui reste. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je veux des histoires, des voyages. J'ai tant de gens à voir, tant d'images. Des enfants, des femmes, des grands hommes, des petits hommes, des marrons, des tristes, des très intelligents et des cons. C'est drôle, les cons, ça repose. C'est comme le feuillage au milieu des roses. Combien de temps encore? Des années, des jours, des heures, combien? Je m'en fous, mon amour. Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai encore. Quand les avions ne voleront plus, je volerai tout seul. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord ?
Il le dit très bien, ce temps qui reste. Comment nous, accompagnants, soignants, pouvons entendre cette demande ? Je crois que, en ce qui me concerne en tant que soignante, c'est une histoire d'amour qui démarre entre le soignant, le soigné et l'entourage. Cette histoire, elle va durer un temps. On a ce temps à passer ensemble. Les soins palliatifs, puisque j'exerce en soins palliatifs, sont là pour essayer de mener ce temps au mieux. Je crois qu'il y a le mot palliatif, déjà, est un mot qui fait peur. C'est un mot qui a une mauvaise réputation. On est perçu souvent comme des croque-morts. On propose le couloir de la mort. J'ai entendu ce genre de choses. Je fais appel souvent à un autre mot. Je parle de soins de confort, de soins de réconfort, d'accompagnement. Et puis, je crois que, effectivement, il a été choisi ce mot palliatif. Je reviens à ça un petit peu dans l'urgence quand il y a eu cette épidémie de sida. Les gens qui ont construit les soins palliatifs, et d'ailleurs le disent actuellement, dommage d'avoir choisi ce mot. Bon, il est là et on pourra peut-être le faire évoluer, je l'espère d'ailleurs. Il y a deux choses dans ces soins palliatifs. Pour moi, il y a deux volets. Il y a les soins du corps du sujet. On revient toujours à ce corps, il est très présent. Ce sont donc les soins de confort. Qui sont là pour apaiser les souffrances, donc les souffrances physiques, amener ce réconfort. On a ces soins de nursing, ces soins de bien-être qu'on peut apporter. On peut soigner tous ces symptômes. On a des techniques, on a des médications qui existent pour soigner la douleur, la morphine, tous les antalgiques. On a ce qu'il faut actuellement. C'est inacceptable de ne pas traiter la douleur. On soigne le souffle, je reviens à ce souffle, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la respiration. On soigne le digestif, je vais être très très globale. On soigne la peau, on soigne le comportement, on soigne l'environnement. On est dans le respect, on recueille les désirs, on recueille les plaisirs. On propose des choses par rapport à tout ça. Je vais vous lire un extrait de mon livre. Ça fait référence à une dame que j'ai nommée Leïla Œil du Cœur. Elle nous parle des soins qu'elle reçoit par l'équipe des soignants dans le service dans lequel elle est. N, l'infirmière, et F, l'aide-soignante, s'approchent avec douceur. Elles n'ont rien remarqué, et c'est bien ainsi. N et F, avec délicatesse, me font asseoir au bord du lit. Ma chemise enlevée, mon corps meurtri apparaît. Je me maintiens droite, défiant mon épuisement et balayant mon état. Sur mon énorme ventre déformé, trois poches de collection remplies d'un liquide nauséabond sont retirées, laissant apparaître plusieurs plaies béantes. Ce sont des orifices de fistulisation, séquelles d'une infection survenue au cours d'une chirurgie digestive récente que j'ai dû subir en urgence pour une occlusion. De ces fistules s'écoulent mes humeurs, du liquide d'acide et peut-être de l'urine, mais à ce stade, peu importe. Ma jambe gauche, une fois débarrassée d'un volumineux pansement, apparaît presque entièrement rongée par une énorme ulcération. Je tremble de nausée, moi, la petite souris déglinguée. Les soins de ce duo complice se poursuivent. Sans hésitation, les quatre mains au toucher délicat prennent soin, lavent, rincent avec de l'eau tiède, sèchent, caressent, pansent, massent, enveloppent, protègent, encouragent, étreignent, massent à nouveau et apaisent sans fin dans cette fin si proche. Une partition à quatre mains magnifiquement interprétée, avec fluidité et tout en nuances. Des regards entendus sont échangés entre ces trois femmes émues, laissant entrevoir la force d'une solidarité féminine partagée. Une douce chaleur se dégage dans cette chambre numéro 4 et j'en profite. Mon corps se détend. Je flotte dans un demi-sommeil. Seuls mes yeux restent grands ouverts. Depuis le début de cette toilette, accompagnant leurs gestes, les paroles de nos deux soignantes sont là, vraies, remplies de sens et dénuées de toute sensiblerie exagérée. Très attentive, je réponds à leurs questions par des clignements d'yeux et des petits mouvements de tête. Ainsi, je guide mes propres soins, soutenue par une qualité d'écoute remarquable. Une atmosphère de bien-être règne dans ma chambre. Je me laisse bercer par ses gestes d'amour et ses paroles apaisantes. Les soins que l'on prodigue à nos patients en fin de vie sont là pour éviter la souffrance. C'est quelque chose que l'on entend très souvent. L'entourage nous dit souvent, surtout que notre proche ne souffre pas. Alors ça, c'est la souffrance, je ferai la différence avec la douleur. La douleur, c'est quand même la douleur physique, je l'ai dit, on a absolument ce qu'il faut pour soigner. Mais la souffrance, c'est la psyché. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à cela? Je crois que c'est, avant toute chose, entendre. Entendre les émotions, entendre les états d'âme, entendre les désirs, entendre les volontés de la personne, de l'autre. Et c'est comprendre aussi. Entendre comment la personne a envie de mourir. Parce qu'il s'agit bien de mourir. Est-ce qu'on peut choisir de mourir? Est-ce qu'on peut choisir sa fin? C'est l'éternelle question. On n'a pas choisi de mourir, on est bien d'accord. Mais on peut avoir des désirs forts, on peut avoir des volontés. Je vais vous lire un extrait donc de mon livre d'un personnage qui s'appelle Domissan. C'est un sans domicile fixe, c'est un sans famille, c'est un sans identité, c'est un sans statut social. Il vit dans la rue. Mon adresse actuelle, beaucoup la connaissent. Bien sûr, je régale du monde avec mon stock de compléments alimentaires. Clinutrin par-ci, Renutril Booster par-là, Fortijuice à gogo, Nutracake de luxe. Frédé, mon pote, a même pris du poids. Et il faut dire que ça lui fait pas de mal. Et en plus, on se réchauffe avec ce qu'il faut. Des cocktails que je fais maison, enfin sur le trottoir, avec mes médicaments et du torboyau. Ensuite, on danse toute la nuit, dans notre laideur. Le lendemain, quand la mobile soignante passe, moi je suis bien, complètement anesthésiée. Mais eux, ils sont en stress, et ça m'attendrit. Ma seule crainte, c'est d'être un jour vraiment dans le coltard et qu'ils m'embarquent. Je leur ai déjà dit, et à ma bande aussi, laissez-moi mourir sur place. Je ne veux pas être transportée dans une ambulance. Je ne veux pas être saisie jusqu'au fond de mes tripes par les terres. Je ne veux pas être dans un hôpital surchauffé. Je ne veux pas sentir l'odeur du poisson mort le vendredi. Je ne veux pas de votre égard. Je ne veux pas que l'on me tienne la main alors qu'on ne me l'a jamais tenue. Je ne veux pas faire dans une couche. Je ne veux pas faire pipi dans un tuyau, une poche pleine. Je ne veux pas que l'on me lave avec l'idée de rendre propre un cochon. Je ne veux pas de corps étranger transperçant mon corps. Je ne veux pas que l'on décide pour moi. Je ne veux pas de votre humanité collante et surtout pas de vos poisseuses bondieuseries. Je ne veux pas vous voir et vous entendre. Je ne veux pas de votre empathie sympathique. Je ne veux pas vous froisser, mais je ne peux pas vous aimer, comme je ne peux pas vous comprendre, comme je ne peux pas vous en vouloir. Je veux simplement mourir en toute solitude, dans le dénuement que j'ai choisi. Je veux rester moi-même jusqu'au bout, fidèle à ma vie, à mes croyances. Et ce n'est pas parce que je suis peut-être en marge, et j'ai bien dit peut-être, et que je ne l'ai pas choisi, que je ne peux pas enfin choisir ma fin. Voilà, c'est pour illustrer un petit peu l'écoute qui est importante. Écouter les désirs, écouter les volontés, mais attention, ne pas s'approprier la mort des personnes qu'on accompagne. Elle leur appartient. Il est important d'avoir de la retenue par rapport à tout ça. Ce texte l'évoque, hein, je ne veux pas de votre empathie sympathique. Attention à ça, attention à ne pas s'octroyer, enfin du moins ne pas déborder, tout simplement. Je reviens à mon activité d'écriture qui permet justement d'être à l'écoute, qui permet d'échanger des paroles, qui permet de recueillir des paroles. L'écriture, pour moi, c'est être dans la créativité. La créativité, c'est oser. Je le revendique comme un acte poétique, comme un acte d'amour. Je reviens à cet acte d'amour dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est aussi partagé avec l'entourage des personnes que l'on accompagne, c'est aussi partagé avec les équipes avec qui je travaille.
Qu'ajouter, si ce n'est le silence, une musique choisie par vous ?
Oui, j'aimerais faire entendre une chanson de Gérard Manset, qui, pour moi, je la relis à un événement qui s'est passé l'année dernière. Un couple de personnes... Un couple de personnes, je suis assez émue. Un couple de personnes âgées a décidé donc de mourir ensemble, est allé à Paris, à l'hôtel Lutetia. Voilà, vous en avez entendu
parler. Oui, bien
parler.
Sûr, oui.
Ce couple très amoureux de longue date, une personne qui avait 80 ans, ont décidé de mourir ensemble parce qu'ils ne voulaient pas se délabrer, ils étaient encore bien et intellectuellement actifs. L'idée de se délabrer pour eux était insupportable, et surtout l'idée que l'un disparaisse avant l'autre était insupportable. Et donc ils ont décidé de partir ensemble. Ils l'avaient annoncé à leurs enfants, ils ont laissé donc un écrit pour annoncer ce départ. Et la chanson donc de Gérard Manset illustre tout à fait pour moi ce départ. Voilà, je vous laisse.
Alors écoutons cette chanson, je crois que c'est aussi une contribution absolument extraordinaire sur la fin de vie.
Ne les réveillez pas, ils sont dans leur sommeil, comme de petits œufs, comme de jeunes abeilles, de simples arbrisseaux, poussant près des fontaines. Toutes les eaux, toutes rivières idem, ne les réveillez pas, ils sont dans leur sommeil, un ongle de mica et la lèvre vermeille, tandis qu'au-dessus d'eux, une forme attentive songe aux instants d'avant où elle était pareille, elle était semblable, rangée sous une table haute comme une chaise. Petit meuble bancal, ne les réveillez pas, ils sont dans leur sommeil. Ce songe indolore qui conduit là-bas, on en a vu des équipages s'endormir, s'endormir, s'endormir comme ça.
Cette émission va se terminer, Françoise. Peut-être qu'à la fin, j'aimerais vous poser simplement la question. Vie, fin de vie, santé, médecine, art. Qu'est-ce que finalement tout cela évoque, et au cœur de vos explorations qui se poursuivent, qu'avez-vous envie d'ajouter ?
Je crois qu'il faut, travailler. Il faut travailler sur la culture de la mort. En France, on a du retard par rapport aux pays européens qui nous environnent. En particulier, je pense à la Belgique, à l'Angleterre. Il faut arrêter ces débats sans fin sur l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie, le suicide assisté. Je suis un petit peu à vif avec ça. On a une loi en France, la loi Leonetti, qui est très bien faite, qui n'est absolument pas connue, absolument pas appliquée. Et je crois que si on arrive à mettre en place des soins de confort, d'accompagnement avec les moyens qu'il faut, que l'on n'a pas actuellement, on va oublier tout ça et je crois qu'on va accompagner des personnes dans des bonnes conditions. On arrêtera de polémiquer à ce sujet. On a tout ce qu'il faut pour le faire, mais il faut travailler là-dessus. Voilà, il faut, et puis surtout, il faut arriver à faire confiance à tous les artistes que l'on a autour de nous pour nous aider dans cette démarche. Je reviens à ça, il faut les écouter. Je crois qu'ils ont beaucoup d'expérience et beaucoup de choses à nous apporter. Voilà, être toujours dans la créativité et oublier toute cette technicité médicale qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Dans les fins de vie en particulier. Voilà.
Une dernière contribution musicale ?
Oui, avec une petite lecture d'un petit texte justement d'un sculpteur. C'est donc un extrait aussi de mon livre.
Oui, je crois qu'il est très expressif de cette alliance entre la médecine et les arts.
Tout à fait, donc je vous le lis. Son regard est tout autre que celui offert habituellement par les mourants. Posé sur le vaste monde, dénué de tout nuage d'opacité, il est bienveillant pour l'éternité. Ce monsieur est déjà bien au-delà. Il a dû longuement se préparer, physiquement et mentalement, peut-être en sculptant tous ses corps, les uns après les autres, patiemment, passionnément. Face à lui, je n'ai pas d'autre choix que de devenir une de ces sculptures, semblable à celle qui trône sur le mur dans la montée d'escalier. Son regard créatif, posé sur moi, a suffi pour me façonner, faisant de moi une exceptionnelle sculpture vivante et libre. Docteur Palio Amore, au plus proche de lui, c'est à main et yeux nus que vous allez devoir prendre soin de cet homme. Notre artiste connaît parfaitement chaque recoin de son corps. Dans cette attente, il le sculpte inlassablement. Seul lui manque de l'oxygène, dont il accepte l'usage pour remplir ses poumons, les seuls à l'avoir lâché. Sinon rien d'autre, si ce n'est de petites gorgées d'eau qu'il s'octroie avec une seringue tenue au coin de sa bouche. Allongé dans son lit sur un drap en fil blanc, il n'est autre qu'une de ses statues. De le voir si paisiblement attendre sa fin, son entourage proche, qui l'adore, est préoccupé. Il parvient même à les rassurer. « Quel talent, cher monsieur! Quelle belle leçon d'humilité vous nous donnez avec constance! Chaque seconde écoulée du temps qu'il vous reste à vivre. On en serait presque mal à l'aise face à cette incroyable maîtrise qui vous appartient, à vous seul. 10 jours se sont écoulés, dans un calme olympien, sans que vous ne bougiez de votre lit, le vôtre, non médicalisé. Ainsi, le sculpteur sculpté chemina tranquillement vers la mort, ses 2 grands yeux restés ouverts, couvant tendrement tous les petits points noirs réfugiés dans le ciel. L'immensité de son regard, offrande magnifique faite à qui peut le croiser, ne peut s'oublier.
Merci beaucoup, Françoise. Votre musique, pour terminer cette émission ?
Une voix, puisque la voix peut porter beaucoup de choses. La voix fait partie du corps, bien évidemment, mais elle porte des messages. Et c'est une voix qui me... C'est un morceau de Maria Lacalas, que j'écoute très souvent. C'est un morceau que j'écoute très souvent parce qu'on a des moments un petit peu difficiles où il faut qu'on se reconstruise un petit peu. Et ça me donne énormément d'énergie et beaucoup d'optimisme et de courage, je dirais. Voilà.
Costa diva.
Merci beaucoup, Françoise. Moi qui vous ai écouté attentivement, je ressens deux choses. La première concerne la médecine, et si je vous ai bien entendu, la médecine est un art, et pour cela, tous les arts, je dis bien tous les arts, sont un chemin pour prendre soin de soi et de l'autre.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est...
Et puis la deuxième chose que je retiendrai dans cette émission, c'est que la fin de vie est un domaine d'exploration pour avoir la fin de la vie.
Oui, de la fin de la vie, de sa vie, je dirais.
C'est ça.
Voilà, bien sûr. Et je crois qu'il faut... Il faut y songer, mais en se disant je construis, je suis.
C'est
là,
ça, c'est avoir faim de vie.
Bien sûr, avoir faim de vie et rester vivant jusqu'au bout.
Merci beaucoup. Au revoir, François.
Au revoir, merci.